OK, Genèse, chapitre 49, versets 22 à 33. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la montagne des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. » Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Alors, on avait vu dans les leçons précédentes comment Abraham, Jacob, il était rendu à 147 ans, et avant de mourir, il désire bénir chacun de ses enfants d'une façon particulière. Mais comme on le voit dans le texte, si on relit tout le chapitre 49, on se rend compte que, dans le fond, Jacob, il bénit chacun de ses fils, mais ceux qui ont fait des bêtises, il ne se gêne pas non plus de les mentionner. Alors, c'est très important de réaliser cela. Alors, on va voir qu'il a, il a béni ses 10 premiers fils, les 6 fils de Léa, les 2 fils de chacune des 2 servantes, Zilpa et l'autre, comment elle s'appelait, Bila. Donc, ça faisait 10. Donc, la première partie qu'on a vue jusqu'ici, on a vu qu'il avait béni les 10 enfants. Et il termine en bénissant Joseph. Il y a une raison particulière, parce qu'on avait vu dans notre leçon la semaine dernière que le droit d'aînesse, Ruben l'avait perdu à cause qu'il avait couché avec la femme de son père. Mais le droit d'aînesse a été transféré, qu'on a vu dans Chronique, 1 Chronique, chapitre 5, verset 2, si je me souviens bien. Il est en train de dire que le droit d'aînesse avait été transféré à Joseph. Alors, il termine sa bénédiction avant de crever. Il sait qu'il va mourir bientôt. Là. Mais le Saint-Esprit lui a ouvert l'intelligence et lui a donné une prophétie concernant l'avenir, non seulement des 12 enfants comme individus, mais des 12 enfants comme étant les chefs de 12 tribus d'Israël. Autrement dit, si vous lisez Genèse 49 comme faut, puis que vous l'étudiez, puis que vous allez vérifier après dans la Bible si les tribus d'Israël ont été traitées selon les paroles de Jacob, vous vous rendez compte que vous pourriez prendre, par exemple, on va voir aujourd'hui, quand il va parler de Benjamin. Il y a juste un verset qui parle de Benjamin. Mais si vous regarderiez dans toutes les Écritures comment le caractère de Benjamin, ce qu'il a fait comme tribu au cours de toute l'histoire d'Israël, vous verriez que dans un seul verset, toute son histoire est résumée. C'est extraordinaire. Chapitre 49 là, de Genèse donne l'histoire des 12 individus, des 12 chefs des tribus d'Israël, ainsi que l'histoire de la tribu elle-même au cours de toute son histoire. Parce qu'on en parle dans l'Apocalypse. On est rendu à la fin, là. Autrement dit, il est en train de donner prophétiquement l'histoire des 12 individus et de leur descendance, de leur progéniture, jusqu'à la fin, avec des caractéristiques particulières pour chacun d'eux. Il fallait que ce soit le Saint-Esprit qui soit capable de leur donner, premièrement, l'avenir, ensuite prophétiser ce qui était pour leur arriver, et ensuite ne pas ménager ses enfants. Des fois, on est porté à nos enfants, on les aime, nos enfants, puis on est porté à plutôt parler de leur qualité. On ne dira pas les défauts des enfants en public. Pourtant, c'est ce qu'il fait ici. Là. Si vous lisez 49, quand il fait des reproches à Ruben et à Lévi et Siméon à cause de leur violence, il ne ménage pas leurs enfants, même ses propres enfants. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas exclus de la bénédiction totale qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Même si Ruben couchait avec sa belle-mère, même si Siméon et Lévi ont été violents et ont participé à tuer une tribu, si vous vous souvenez de l'histoire de Dinah, Dinah va sortir pour aller voir les filles du pays et elle a été violée. Et le gars, après, est tombé en amour avec, il a voulu la garder, il a voulu demander sa main. Et on sait que les frères de Dinah, ils ne l'ont pas pris du tout. Dont Siméon et Lévi, qui étaient des violents. Ils ont dit, OK, à une condition. Il faut que vous soyez circoncis, vous autres aussi. Puis quand ils ont accepté, après ça, ils ont sorti leur glaive, ils se sont promenés, puis ils ont tout tué le monde complet. Et ici, avant de mourir, Jacob dit, maudite soit leur violence. Alors le père, il sait le caractère de ses enfants. Il sait qu'ils sont dans l'Alliance, il sait qu'ils sont le peuple de Dieu, mais quand il est temps de leur reprocher, à la fin de sa vie, juste avant de mourir devant tout le monde, alors on voit que la Bible ne cache pas nos défauts, même des patriarches. Alors, jusqu'au verset 21, on avait vu que Jacob avait béni 10 de ses fils, il en restait 2, non pas les moindres. Pourquoi on dit non pas les moindres? Parce qu'ils étaient les deux, les fils de sa bien-aimée. Parce que quand il avait été rencontré Laban, là, c'est pour Rachel qui avait voulu travailler 7 ans, mais c'est Laban qui en avait passé une petite vite, qui avait donné Léa en lui disant que c'était Rachel, c'était pas elle. C'était assez extraordinaire. Ici, c'est Joseph, c'est le fils, le premier fils, de sa bien-aimée Rachel. Et ici, c'est pas pour rien que Jacob finit en donnant une bénédiction extrêmement riche. Parce que là, on lit ça, là. Le problème avec nous autres, quand on lit la Bible, c'est qu'on lit très rapidement, puis on ne médite pas sur ce qui est dit, et on n'étudie pas ce qui est dit. Et pourtant, c'est là qu'est toute la richesse de cela. La bénédiction qu'il donne à Joseph, elle est très particulière, elle est très riche, elle est très profonde. Et il dit des choses sur Joseph. Pourquoi il termine avec Joseph? Parce que Joseph, durant toute sa vie, a eu un comportement exemplaire. Ses frères, ses propres frères, imaginez-vous, vous êtes dans une famille, là, ton frère ou ta sœur qui te ferait une chose pareille te vendent. Pour t'en aller de l'esclave en Égypte. Puis que lui, après, quand il est devenu, par la providence de Dieu, il est devenu le second après Pharaon. S'il avait été un genre méchant, là, comme on serait porté à l'être nous autres, là, si on se l'avoue, là, si mon frère, ma femme, il m'aurait fait une affaire de main, puis là, je serais rendu le plus puissant après Pharaon. Il me semble qu'on pourrait se dire, ah, c'est à mon tour. Mes amis, vous allez y goûter. Mais non, toute sa vie, son caractère a été exemplaire, son comportement a été exemplaire. Pourtant, il a été extrêmement fortement éprouvé. Alors ici, Jacob, il déborde de joie en décrivant les bénédictions que le Seigneur réserve à Joseph. Parce que c'est ça qui se passe ici. C'est pas une bénédiction personnelle. C'est pas la bénédiction de Jacob à ses fils ou à son fils. C'est une bénédiction qu'il reçoit par révélation de Dieu qui lui montre ces choses-là. Alors, il y a comme une bénédiction, il y a comme une approbation divine à ce qui est dit. Autrement dit, ce que je suis en train de dire sur Joseph, Dieu lui-même approuve ce que je suis en train de dire. Et les bénédictions qu'il va recevoir vont littéralement déborder. C'est, si vous lisez le texte très attentivement, vous allez voir que c'est ça qui se passe. Et on sait qu'il va mourir en paix et dans la foi. Mais avant de mourir, juste pour résumer un petit peu, avant qu'on commence vraiment l'exposition du texte, juste avant de mourir, il va dire à ses fils, « Je ne veux pas que mon corps reste en Égypte. Je veux que mon corps soit, que vous emmeniez mon corps pour qu'il soit enseveli, enterré dans le champ que Abraham a enterré. » Autrement dit, c'est la terre promise. La terre promise, là, Dieu avait promis beaucoup à Abraham. Il avait promis tout un pays. Puis la seule chose qu'il y avait au moment où Jacob fait sa chose, c'est un petit terrain. Imaginez-vous, Dieu vous fait une promesse d'un pays, puis deux générations après, tout ce que vous avez comme pays, c'est un petit terrain que vous avez acheté pour votre sépulture. Ça prend de la foi pour continuer à croire que Dieu va te le donner, le pays. Mais le temps de Dieu, c'est pas notre temps à nous. Alors, il tient à dire à ses descendants, « Je veux que vous preniez mon corps. » La même chose que Joseph. Joseph aussi, quand il va mourir, va faire exactement la même chose dans le chapitre 50. Il va vouloir que son corps ne reste pas en Égypte et qu'il retourne à la terre de Canaan. Très important. Et ça dit ensuite qu'il a été... Moi, j'aime beaucoup l'expression. C'est plein de poésie. Hein? 49, là, si on ne saisit pas que le chapitre 49 est rempli de poésie, rempli de prophétie et rempli de symbolisme, on manque le bateau. On lit ça et on ne comprend pas. Des fois, c'est important de s'arrêter et de dire, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et c'est là la méditation, ça te fait comprendre des choses. Alors, dans le verset 22 à 26, Jacob, il bénit son préféré. On se souvient pourquoi ses frères se sont mis un jour à haïr Joseph? Parce qu'il était jaloux de l'amour préférentiel. C'est pas une bonne chose pour des parents d'avoir de l'amour préférentiel pour un des enfants. C'est pas une bonne chose. Mais lui, c'était ça à cause du fait que c'était les enfants de sa bien-aimée. C'est elle qui aimait. Pas Léa. Léa, je n'avais pas dit qu'il ne l'a pas aimée. Mais c'était pas celle-là qu'il voulait. Alors ici, c'était le premier fils de sa bien-aimée. Et vu qu'il avait un comportement exemplaire en tout temps, ses frères se sont mal laïs, ils étaient même plus capables de le sentir, de le voir même. Ils ont vu sa robe de couleur. Ils ont dit, il s'en vient là avec ses prédictions. On va y arranger son corps. On va le voir si les prédictions vont arriver. Et c'était grave ce qu'ils ont fait. Alors ici, vraiment, Jacob déborde de joie et d'enthousiasme. Dans la bénédiction de Joseph, c'est une bénédiction qui est caractérisée par plusieurs choses. Premièrement, je dirais, dans le verset 22, la plénitude. Quand il leur dit, « Joseph est le rameau d'un arbre fertile, le rameau d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches ont couvert la muraille. » Autrement dit, l'idée, c'est comme un arbre qui est bien arrosé, qui est sur le bord, disons, d'une rivière. Ses branches, ils s'en vont dans le sol et ils ont toutes qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'eau pour grandir, pour se fortifier. Alors, bien sûr, ici, Jacob est en train de prédire la future grandeur de Joseph et aussi de sa descendance, de toute la tribu. Quand il parle que ses branches ont couvert la muraille, semble-t-il que ça veut dire qu'on est plus haut que la muraille, dépassé. C'est comme si tu as une vigne, puis elle dépasserait, puis elle haïrait l'autre bord. Autrement dit, tu es en train de dire que lui et toute sa descendance vont être très abondamment béni. Et ils prennent l'image qu'on a dans le psaume 1 au verset 3, quand il nous parle de nous, là. Mais il parle avec des termes aussi d'eau et de branches. Psaume 1, verset 3, heureux, verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour, médite sa loi jour et nuit. Si on a un exemple ici que Dieu nous dit qu'on se devrait de méditer sa parole. Troisièmement, il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dans tout ce qu'il fait, il réussira. Il est en train de parler de la personne de Joseph et de sa descendance en termes de... Comme il compare à un arbre qui est planté près d'une source d'eau, près d'un ruisseau, et qui ne manquera jamais de ce qu'il a besoin pour grandir, produire des fruits et avoir un beau feuillage. Très intéressant comme image, hein, qu'il utilise pour son fils. Deuxième chose, dans le verset 23-24, il va, la bénédiction va être caractérisée aussi par ce qu'on appelle les providences divines. C'est quoi une providence? C'est simplement la façon d'agir de Dieu dans votre vie de tous les jours. Dieu a des providences, au pluriel, pour chacun d'entre nous. Ils ne sont pas les mêmes, à cause du fait qu'on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes connaissances, etc. Mais Dieu utilise des circonstances particulières dans ta vie de tous les jours pour t'enseigner des choses. Et ici, il est en train de leur rappeler qu'est-ce que le traitement que Joseph a reçu de ses frères et comment lui a réagi face au mauvais traitement qu'on lui a fait. C'est ça qu'il dit dans le verset 23 et 24. Des archers l'ont harcelé. Les archers, c'est quoi? Il est en train d'utiliser l'image d'une flèche et d'un arc pour parler que ses frères, ils l'ont attaqué, mais pas à peu près. Ils ont tiré dessus. C'est-à-dire, ils l'ont harcelé. Quand on parle d'harcèlement, ils lui ont lancé des traits, des flèches, et ils l'ont attaqué. Il est en train de parler comment ses frères ont agi envers lui et comment lui a réagi. Ça dit dans le verset 24, « Mais son arc, à lui, il aurait pu prendre son arc puis vouloir dire, « OK, la vengeance, OK, vous avez voulu me tirer, moi, vous tirez, vous êtes aussi. » Il dit, « Mais son arc est demeuré ferme. » Autrement dit, il n'a pas réagi à la méchanceté par la méchanceté. Et il dit, « Et ses bras et ses mains ont été renforcés par les mains du Tout-Puissant Jacob. » Ça, c'est très intéressant de noter ça. Il parle pas juste du caractère de Joseph, mais il parle de où venait sa force. Autrement dit, pourquoi il était fort comme ça, Joseph? Pourquoi il n'a pas réagi en termes de vouloir se venger alors qu'il était dans la puissance? Ça se dit, « Mais ses bras et ses mains ont été renforcés par les mains du Tout-Puissant. » Autrement dit, il est en train de parler que c'est les circonstances que Dieu contrôlait du haut du ciel dans la vie de Joseph et qu'il ne se vengeait jamais, comme quand il était accusé de violer la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est poussé. L'autre, il n'a même pas écouté Potiphar si ça se pouvait que sa femme soit juste une tentatrice. Il l'a envoyé en prison. Il s'est même pas défendu. Alors, il ne s'est pas un genre de gars à dire, « Ben oui, mais regarde donc, Potiphar, ta femme, c'est si tu la surveillerais de près, tu te rendrais compte qu'elle n'est pas ce que tu penses. » Non. Il se laisse aller en prison, il subit du mal et il ne se venge pas. « Ont été renforcés par les mains du Tout-Puissant. » Remarquez bien les lieux, ce qu'il est en train de dire. « Par les mains du puissant de Jacob. » Le puissant, c'est Dieu, le Tout-Puissant. « Du lieu où réside... » Regardez les mots qu'il utilise aussi pour parler de Dieu. « Le berger. » Et un autre mot, « Le rocher d'Israël. » Il est en train de dire, « Si Joseph a eu un comportement exemplaire et irréprochable tout au cours de sa vie, la source est où? Dans le caractère de Joseph ou dans la grâce de Dieu? C'est dans la grâce de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, Joseph y était plus qu'abondamment éprouvé dans sa vie. Ses épreuves sont décrites en langage poétique en les comparant à des archers qui lui ont lancé incessamment des flèches. On va en nommer quelques-unes des flèches. On ne recommencera pas toute la vie de Joseph, mais juste de se rappeler. Celle de l'envie et de la haine de ses frères qui l'ont vendu. Imaginez-vous que ce que ça produirait dans notre cœur si on traverserait une période dans nos vies où ce que ce serait ton propre frère, tes frères qui t'ont vendu pour devenir un esclave. Et à cette époque-là, un esclave, là, c'était pas drôle. Parce qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait avec toi. Une autre flèche, celle de la tentation de la femme de Potiphar, qui, durant tout le temps où il était à son service, elle n'arrêta pas de dire, « Joseph, il devait être bel homme, couche avec moi. » Puis lui, il a toujours dit, « No way. » À un moment donné, elle l'a fait venir, puis là, elle s'est pendue après son manteau, puis là, c'est comme elle voulait vraiment, là, « Couche avec moi, puis elle a tiré sur son manteau, puis là, lui, il s'est poussé. » Pour pas le faire, il y avait une crainte de Dieu. Donc, les flèches, il n'a eu de ses frères, il n'a eu aussi de la femme de Potiphar. Il n'a eu aussi de la persécution de son maître. Parce que, si on regarde l'histoire, là, Potiphar, là, apparemment que c'est un eunuque. Un eunuque, c'est un serviteur de Pharaon, alors qu'il avait les parties coupées. Il ne va pas avoir aucune vie sexuelle avec elle. Il n'avait pas de... Alors, si c'était un eunuque et qui voyait que sa femme était en train d'accuser quelqu'un de vouloir coucher avec, il me semble qu'il aurait dû pousser son enquête un petit peu plus loin. Mais pour avoir la paix avec sa femme, « Oh oui, il t'a fait ça! » Il l'a envoyé en prison. Et à ce moment-là, les prisons... il l'a envoyé dans la prison où les ennemis de Pharaon étaient emprisonnés. Alors, les fausses accusations... C'est se faire accuser puis te ramasser en prison. Imaginez-vous, tu te ramasses en prison dans des prisons qu'il y avait à cette époque-là. C'était pas les prisons modernes. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans un pénitencier. Je peux vous dire une chose. Au Canada, les pénitenciers, c'est des hôtels. Il y a tout là-dedans. Même, il y a bien des choses que des gens restent dans une petite municipalité comme Mégantic qu'on n'aime pas. Des gymnases, ils vont à la piscine. Ils sont gâtés. Mais la prison de cette époque-là, c'était pas ça du tout, là. Et c'est là que Joseph s'est ramassé. Ensuite, il y a celle de la négligence. Une autre flèche, c'est quand il était en prison, les deux officiers de Pharaon, le panetier et l'échanson, il y avait eu des rêves, et là, ils expliquaient le rêve, puis il avait dit à l'échanson, il avait prédit qu'il sortirait, qu'il serait pas condamné, et il avait prédit aussi au panetier qu'il serait condamné, lui. Puis, il avait dit au gars, « Mais quand tu seras sorti, fais-moi sortir d'ici. » Le gars, il était très... Il était plein de gratitude. Il n'a pas dit un seul mot. Ça, c'est une flèche... Ça doit te laisser un goût amer dans le cœur. Quand tu as aidé quelqu'un à sortir et à lui sauver la vie, puis tu fais tout simplement... lui demander, quand tu seras auprès de Pharaon, intercède et interviens et explique mon cas que moi je suis ici par injustice. Il ne l'a pas fait. Alors, des flèches, pour ça qu'il a manqué, il en a eu, il est attaqué de tout bord, de tout côté. Mais il a toujours réagi comme fou. Alors, bien entendu, on sait que quand Joseph a eu son rang social a été augmenté, il était rendu second après Pharaon. Là, pour lui, ça aurait été une occasion, quand ses frères sont venus chercher du blé parce qu'il y avait une famine dans le pays. Imaginez-vous, là, vous êtes... Là, en plus, ils ne l'ont même pas reconnu. Tu sais. Il était comme... Il devait avoir les habillés, les barbes. Peut-être qu'il ressemblait plus à un Égyptien qu'à d'autres choses. Là, il aurait pu dire, « Ah oui, regardons ça. Ça donne bien que vous êtes ici tout aujourd'hui, là. » Mais non, il a résisté à l'envie de se venger et d'agir méchamment. Il a plutôt choisi de chercher à leur faire prendre conscience de leur péché et de la gravité du péché et à les amener à la correction pour qu'ils comprennent la gravité du geste et que devant Dieu, ils reconnaissent leur culpabilité. Si on revisait tous les chapitres qu'on a étudiés là-dessus, c'est très, très, très intéressant de voir comment Joseph a agi. Mais ce que j'aime du verset, c'est qu'il nous dit, Jacob est en train de dire à Joseph, « La source de ta force, ce n'est pas dans toi qu'elle vient. » Il lui donne trois noms de Dieu. Le puissant Jacob, le berger et le rocher d'Israël. Le puissant Jacob, ça fait référence aux délivrances, aux nombreuses délivrances que Jacob a reçues de la part de Dieu dans plusieurs circonstances. Lors de sa fuite devant Laban, Laban, de sa peur de rencontrer Ésaü, quand il a quitté la famille de Laban, il y avait, comme on dit en québécois, la chienne de son frère, Ésaü. Il dit, là, je m'en vais rencontrer mon frère, il va vouloir me tuer et se venger. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Dieu a permis que, en fin de compte, il ne se passe rien, et son frère l'a bien accueilli, tout ça. Et ensuite, il y avait eu la peur de la vengeance des Cananéens puis des Phérésiens. Quand il y a eu l'histoire de Dinah, que ses deux fils avaient fait un arrangement avec cette tribu-là, il avait dit, faites-vous tout circoncire, puis on va devenir la même famille, on va pouvoir se parier entre nous, faire du commerce entre nous. Et quand ils ont été dans la souffrance, les deux se sont promenés avec des épées, puis ils étaient transpercés. Alors, bien entendu, le puissant Jacob, c'est Dieu qui a permis que les Phérésiens et les Cananéens, qui étaient les nations qui environnaient cette nation-là, il a eu peur, lui, il a vraiment eu peur que ces gens-là disent « Hey, ta manière d'agir là, est dangereuse, on va t'avoir, nous autres aussi. » Et dans Genèse 34, verset 30, ça dit « Alors, Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, comprends, il est juste la gang, la famille. » Et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Autrement dit, le comportement de ces deux fils aurait pu faire en sorte que toute la nation naissante d'Israël soit détruite. Mais il se rend compte que c'est le puissant Jacob qui a empêché ceux qui environnaient de se venger. Quand il l'appelle le berger, il parle de Dieu en étant le berger. Dans quel psaume qu'on parle de Dieu comme étant le berger? Psaume 23. Qu'est-ce que ça fait un berger? Ça guide. Est-ce que ça protège aussi? Ça protège. Est-ce que ça nourrit? Ça nourrit. Est-ce que ça guérit? Ça guérit. Donc, le berger, il fait appel à l'image du berger pour parler que Dieu a fait avec Joseph toutes ces choses-là. Guider, protéger, nourrir et guérir. Et le rocher d'Israël, celle-là, je l'ai trouvée tellement bonne, j'ai fait des recherches sur Internet, dans mes dictionnaires bibliques, je voulais savoir le rocher d'Israël, pourquoi il utilise l'image le rocher d'Israël. J'ai trouvé sur un site web une citation d'un site qui s'appelle La Bible Info. Je vais vous lire ce qu'il dit, lui, sur ce qu'il comprend de ce que c'est le rocher d'Israël. Il dit, « Un rocher est par nature inamovible. » Ça veut dire quoi, inamovible? Tu ne peux pas le bouger. « Inébranlable. » Tu ne prends pas ça comme tu veux. « Indestructible. » Tu essaieras de détruire une montagne. « Le vent et la tempête ne le font pas vaciller. Alors que les générations se succèdent et que le monde change, il est le symbole de la permanence et de l'invariabilité. Mm-hmm. C'est beau, hein? Mm-hmm. Ben là, il est en train de parler de Dieu. Il dit, le rocher est une image dont se sert la parole pour nous parler d'un Dieu qui reste le même d'éternité en éternité. Dans Isaïe 26, verset 4, on dit « Car Yah, Jéhovah est le rocher des siècles. » Moïse s'adresse à lui comme au rocher dans le cantique qu'il prononce devant tout le peuple à la fin de sa vie. Il dit « Il est le rocher, son œuvre est parfaite. » C'est encore l'image qu'utilise l'auteur du psaume 71 pour exprimer sa confiance en l'Éternel. Par opposition avec la tente, qui est un abri temporaire et fragile, l'habitation dans le rocher résiste à l'épreuve du temps et nous parle de stabilité, de solidité et de protection. Mais plus qu'un abri, le psalmiste désire en faire son habitation, c'est-à-dire un lieu de repos, de paix, de communion et même d'intimité. Notre Dieu veut aussi être cela pour les croyants, un Dieu avec lequel on peut connaître une paisible et heureuse relation, celle d'enfant avec leur père. C'est très intéressant, juste les trois expressions, puissant de Jacob, berger et rocher d'Israël, il y aurait... On pourrait en parler pendant des heures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apôtre Paul utilise encore l'image du rocher quand il dit « Ils ont mangé la même nourriture spirituelle, ils ont bu le même breuvage spirituel et ils buvaient d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et le rocher était Christ. » Très intéressant de faire le lien là ici. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Donc, aussi caractériser la bénédiction de Joseph, que Jacob fait à Joseph, les promesses divines, dans versets 25 et 26. « Il sait l'ouvrage du Dieu de ton Père qui t'aidera, et du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de ceux qui m'ont engendré jusqu'au terme des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. » Le Tout-Puissant, ici, est en train de faire des généreuses promesses à Joseph et à sa descendance. Et voici les mots qu'il utilise. Il faut s'arrêter à la signification. Des cieux d'en haut. Ça va venir d'en haut. Autrement dit, en termes temporels et en termes terrestres, comment Dieu peut bénir quelqu'un, disons quelqu'un dans l'agriculture? Là. Il va te bénir comment? Le soleil, la pluie, dans des bonnes proportions. S'il y a trop de soleil ou s'il y a trop de pluie, c'est pas bon. Tu es en train de parler de ça. Des cieux, les bénédictions des cieux d'en haut. Mais bien entendu, quand on parle de ça, on peut aussi regarder le côté spirituel. Dieu va bénir Joseph et toute sa descendance par les bénédictions qui viennent d'en haut. Mais après ça, il utilise de l'abîme qui repose en bas. Dieu verra ce que le sous-sol soit généreux par des sources souterraines et un terrain fertile. Autrement dit, il est en train de dire que Joseph va jouir de très grandes bénédictions. Tout ce qui vient d'en haut, comme ce qui vient d'en dessous, va contribuer à sa richesse. Et lui donne aussi une autre bénédiction qui n'est pas la moindre, en parlant du nombre des enfants. Quand il parle, il dit « des bénédictions des mamelles et du sein maternel ». De quoi il est en train de parler? Il est en train de dire que tu vas en avoir des enfants, puis les femmes auront pas, avorteront pas, et tu vas avoir une famille nombreuse, bénie, et en santé. Alors, le Tout-Puissant va permettre que Joseph jouisse d'une famille nombreuse et des troupeaux féconds. Parce que ça pouvait arriver que dans cette époque-là, tu avais des bêtes qui étaient malades. Des troupeaux. Autrement dit, tout dans sa vie, que ça vient d'en haut, d'en dessous, des animaux, des femmes avec lesquelles il va avoir des rapports, tout va être béni. Hey, c'est pas une petite bénédiction qu'il fait à son fils, là. Moi, si mon père aurait pu me bénir, j'ai celle-là que j'aurais aimé avoir. Et il lui dit une autre affaire qui est très, très, très importante en termes de durabilité des bénédictions. Il dit « jusque dans les collines, jusqu'au terme des collines éternelles ». Il est en train de dire « tu vas recevoir tout ça durant ta vie terrestre et la bénédiction va aller jusque au ciel ». C'est loin, ça, jusque dans les collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. C'est un super de beau passage. Maintenant, le verset 27, c'est la bénédiction de Benjamin. Et elle est très courte. Benjamin est un loup qui déchire. Si vous jamais vous allez sur Internet puis vous regardez les symboles que chacune des tribus utilisait, c'est tous des animaux. Parce que des fois, ils parlent d'une biche, des fois, ils parlent si, ça. Soit des animaux ou soit une image. Chaque tribu avait son image. Et ici, pour celle de Benjamin, ils utilisent celle d'un loup. Hé, un loup. Tu te fais dire, toi, ta seule bénédiction que tu as, c'est ces mots-là. Tu te fais dire que c'est ces gens-là. Mais si vous regardez l'histoire des Benjamites dans toute l'histoire de la Bible dans l'Ancien Testament, vous allez voir que c'était une tribu de guerriers qui ont été caractérisés par leur habileté guerrière. Si vous vous souvenez de certains passages, là, on dit que les Benjamites étaient tellement habiles avec la fronde, là, qu'ils étaient capables de viser quelque chose à un cheveu près. Quand tu as une armée de gars qui sont capables de faire ça, tu as des bons gars sur ton bord, autrement dit. Il dit, Benjamin, tu es un loup qui déchire. Au matin, il dévore la proie. Et sur le soir, il partage le butin. Donc, l'histoire de la tribu de Benjamin démontre qu'elle fut de nature guerrière. Si vous prenez, je ne les lirai pas, c'est parce que je n'aurai pas le temps ce matin, là. Mais il y a un article sous Benjamin dans un dictionnaire biblique de Westphal. Lui, ce qu'il fait, c'est quand je vous dis qu'on peut démontrer par les Écritures que la prophétie que Jacob fait sur Benjamin et toute sa... Tu peux voir si ça se réalise. Et dans le dictionnaire, je l'ai ici, il doit y avoir à peu près comme 25-30 versets là-dedans. Il nous montre que tout au long de l'histoire dans l'Ancien Testament, la tribu de Benjamin, les Benjamites, ont eu cette caractéristique-là d'être des guerriers très habiles. Pas qu'ils en parlent comme d'un loup, parce que ils vont être... Et autre chose qui est intéressant, c'est que de cette tribu-là, Mardoché et Esther étaient de la tribu de Benjamin. Si vous vous souvenez de l'histoire de Mardoché et Esther, c'était, on avait décidé qu'on éliminait le peuple juif au complet, et Esther l'avait intervenu auprès du roi de manière à ce qu'il puisse se défendre, et on se souvient de l'histoire. Alors, Mardoché était un descendant de la tribu de Benjamin, et Esther aussi. Et il y a aussi le grand prophète Jérémie, qui était de la tribu d'Esther, la tribu de Benjamin. Et aussi, devinez qui? L'apôtre Paul. Quand on regarde Paul, avant sa conversion, c'était-tu un petit guerrier? C'était pas un petit guerrier, ce gars-là? Il voulait, comme on dit, hein? Alors, Saul de Tarse était... Alors, on pourrait aller voir tous les versets, je les ai tous, au moins 20, 25, il faudra aller voir dans différents passages. Mais le but, c'est de voir que Dieu dit dans une seule phrase des choses vraies et qui se déroulent dans le temps. Et la troisième chose que je veux regarder dans le texte d'aujourd'hui, c'est le fait que Jacob exprime ses dernières volontés. Autrement dit, là, il a béni ses 12. Tout le monde, y compris, il finit par Benjamin. C'est normal qu'il finisse par Benjamin, c'est le dernier qu'il a eu. Après ça, là, il leur dit, mes petits-enfants, moi, je ne veux pas que mon corps reste en Égypte. Il leur parle solennellement. Il leur dit, verset 28, tous ceux-là. Alors, les choses qu'il fait avant de mourir, c'est tout simplement... de réexprimer, encore une fois, sa volonté de bénir tout ce monde-là, les 12, avec leur descendance. Il leur dit, « Tous ceux-là sont les chefs des 12 tribus d'Israël, et c'est ce que leur dit leur père en les bénissant. Il bénit chacun d'eux de la bénédiction qui lui était propre. » Très intéressant de voir qu'ils n'ont pas reçu la même. Si vous comparez celle de Joseph avec celle de Ruben ou avec celle de Lévi et Siméon. Moi, je vais vous dire, si j'avais été un enfant de Jacob, j'aurais aimé avoir celle de Joseph. Ça, c'est sûr, certain. Alors, il tient à bénir ses 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël avec leur destinée très particulière. Quand il dit « chacun d'eux selon la bénédiction qui leur était propre ». Maintenant, il parle de la charge qu'il leur donne, versets 29 à 32, et il commanda. Il ne dit pas « s'il vous plaît, mes enfants, là, monsieur, quand tu commandes, tu es le chef de la famille, tu es le patriarche, tu as le droit de commander à tes enfants, et c'est ce qu'il fait ». Il leur commande. Il leur commanda et leur dit, « Je vais être enseveli vers mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Hétien, dans la caverne qui est au champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, dans laquelle Abraham acquit d'Éphron le Hétien, avec le champ en propriété sépulcrale. » Autrement dit, ça prend de la foi, là. De la part de Jacob, qui est rendu à la troisième génération, de te souvenir que Dieu a dit, je vais vous donner un pays, et là, tu es en train de dire aux enfants, moi, je suis en Égypte, puis je vais être enterré en Égypte, mais je veux pas que vous restiez là. Je veux m'en aller dans la terre promise, dans le pays que Dieu m'a promis. Ça prend-tu de la foi?
Oui.
Ça prend beaucoup de foi. Alors, verset 31, il dit, c'est là qu'on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. C'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. C'est là que j'ai enterré Léa, sa première femme. L'acquisition du champ et de la caverne qui y est a été faite des enfants de Heth. Je vais vous donner une citation du pasteur, et c'est un pasteur réformé baptiste, Philip Everson, qui vient de... un Anglais d'Angleterre, lui, quand il donne son idée sur ce passage-là, dans son livre « La Genèse, le livre des origines », il dit « Après avoir béni ses enfants, il rappelle à nouveau son désir d'être enterré à Canaan. Il en fait part, cette fois-ci, à tous ses fils et leur donne des instructions très précises sur le lieu de sa sépulture. Dans la caverne qu'Abraham a achetée à Éphron le Hétien, et où il repose avec Sarah, Isaac, Rebecca et Léa, ils sont également ensevelis. L'auteur rapporte que ses fils exécutent ses dernières volontés et indique exactement l'endroit. Si on s'en va dans le chapitre 50, on va voir que ses enfants vont respecter la volonté du père de sortir d'Égypte et de s'en retourner dans le pays promis par Dieu. Alors, Abraham ne possède que ce lieu dans la terre promise. C'est un petit gage et un signe que tout le pays appartiendra un jour à ses descendants. La requête de Jacob atteste que sa foi n'a pas chancelé. Jusqu'à la fin, il croit aux promesses que Dieu a faites. Après avoir prononcé ses dernières paroles, il reprend sa position couchée et il expire. Tu te promets un pays, puis tu as un terrain, tu te dis en toi-même, c'est long, ça prend du temps. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors, dans le verset 33, on a vraiment la mort. Il dit, quand Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et expira et fut recueilli en vers ses peuples. Aimeriez-vous ça que le Seigneur vous fasse la grâce? Que quand vous allez mourir, vous soyez dans votre lit, puis que tous vos enfants soient là. C'est une grâce, selon vous autres?
Oui,
c'est une très grande grâce. Très grande grâce. Alors, il est mort dans la paix, puis il est mort dans la foi. L'expression très intéressante fut recueillie vers ses peuples. T'es en train de parler de quoi, là? T'es en train de parler que l'âme, elle la traverse, elle s'en va vers ceux qui sont déjà au ciel avec le Seigneur. Pas avec son corps encore, mais ça va venir. Tout est une question de foi en ce que Dieu a dit. Alors, il parle que l'existence personnelle de Jacob se prolonge au-delà de la tombe, un peu comme nous. Trois applications. La première, apprenons sur les providences divines dans nos vies. Le Seigneur a rempli la vie de Joseph de ses providences comme il comble la nôtre. Dieu nous protège des flèches et de l'envie, de la haine de nos ennemis. On avait vu ça tantôt. De la tentation, et il nous donne les moyens de la vaincre, parce que lui était tenté par la femme de Potiphar. Ensuite, de la persécution, Dieu pourrait permettre qu'on soit persécuté énormément plus qu'on l'est actuellement. Et aussi, de la négligence et de l'ingratitude à ceux à qui on a fait du bien. Si tu fais du bien à quelqu'un, tu t'attends qu'au moins, il va avoir un peu de gratitude. Mais Dieu, les outils qu'il a utilisés avec Joseph, il va les utiliser avec nous aussi. Mais de façon différente, parce que nos circonstances sont différentes. Deuxième application, soyons émerveillés de la solidité et de l'immuabilité des promesses divines. Elles s'accompliront toutes en leur temps, parce que le Seigneur est, un, le Tout-Puissant, deux, notre berger fidèle et compatissant, trois, notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer solidement. On prend le texte et on l'applique dans nos propres vies. Troisième application, méditons sur les leçons que Jacob nous a apprises. Dieu ne nous laisse pas avec nos défauts. Si vous vous souvenez de l'histoire de Jacob depuis son début, c'est un homme qui n'avait eu des défauts, ce petit Jacob-là. Il n'avait pas d'errements. Dieu l'a corrigé, lui a fait vivre des expériences amères, difficiles, pour le corriger. À la fin de sa vie, il était rendu quoi? Un homme spirituel. C'est ce que le Seigneur fait avec nous aussi. Jacob aussi a aimé ses enfants, mais pas de façon aveugle. À la fin, il leur dit pas, vous êtes tous mes enfants, vous allez tout aller au ciel. Il leur fait des reproches, des choses bien précises. Toi, t'as tendance à la couchette. Puis toi, t'as tendance à la violence. Et il leur rappelle des choses comme ça. C'est un père qui fait ça avec ses enfants, c'est parce qu'il les aime. Pas parce qu'il veut les humilier devant les autres. Alors, il est mort sereinement dans la foi, la paix et la certitude de sa destinée éternelle. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen. Amen.